Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, coup de projecteur sur ces pseudo-thérapies qui prétendent guérir les homosexuels. Bien que l'Organisation Mondiale de la Santé ait cessé de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale en 1990 et la France comme une pathologie psychiatrique en 1992 seulement, certains groupes religieux, certains pseudo-thérapeutes se donnent pour mission d'éradiquer l'homosexualité considérée comme une pathologie, un handicap, une tare, une déviance. Rappelons qu'au XIXe siècle, d'éminents psychiatres comme Karl Westphal ou Richard Kraft Ebing ont tenté de percer le fonctionnement du cerveau des homosexuels. Désormais, dans de nombreux pays, l'homosexualité n'est plus psychiatrisée ni médicalisée, mais vous le verrez, certaines organisations religieuses ont pris le relais en prétendant soigner des comportements considérés comme démoniaques. Avec nous ce matin, les journalistes Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglodre qui ont infiltré ces groupes. Avec nous également le psychiatre Guillaume Font. N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Vers 11h-25, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce qui reviendra sur le séisme provoqué dans le cinéma français par la comédienne Adèle Haenel et ses révélations. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébé.
Bonjour Jean-Loup Adenor.
Bonjour.
Bonjour Timothée de Roglodre.
Bonjour.
Vous signez une enquête formidable, Dieu est amour, sous-titré infiltré parmi ceux qui veulent guérir entre guillemets les homosexuels. C'est publié chez Flammarion et vous êtes également les co-auteurs d'un documentaire avec Bernard Nicolas, Homothérapie, conversion forcée, qui sera diffusé le 26 novembre prochain à 20h50 sur Arte. Alors j'ai découvert qu'il existait en France des groupes religieux qui se donnent pour mission de réparer la déviance d'hommes et de femmes désorientés par leurs attirances homosexuelles, des pratiques importées des États-Unis, Timothée de Roglodre.
Oui, en fait, nous, au début, on savait que le phénomène existait aux États-Unis. Depuis plusieurs décennies, ça a été très bien documenté. Et on s'est demandé si ça pouvait aussi exister en France, dans un contexte qui est un peu différent, dans un rapport religieux très beaucoup plus complexé, enfin beaucoup plus
anticlérical,
etc. Et en fait, on est un petit peu tombé de notre chaise parce qu'au début, on pensait que c'était des choses inexistantes ou marginales. Et en fait, après 2 ans d'enquête, on a pu établir que non seulement c'est des choses qui existent sur notre territoire, mais qu'en plus, elles sont en train de se développer.
Oui, absolument. En fait, il se trouve que ces groupes importent exactement les méthodes américaines en France. En fait, notre travail a consisté à révéler que ces groupes américains ont des succursales et des filiales en France, avec les mêmes manuels, les mêmes penseurs, les mêmes méthodes, et que c'est ces méthodes-là qu'ils développent en France depuis Pour te rendre vie, c'est depuis 30 ans. Pour Courage, c'est depuis 2014.
On parle aux États-Unis de thérapie de conversion. Mmh. Vous ne reprenez pas cette expression dans votre livre. Non. Vous utilisez le terme d'homothérapie. Mmh.
Ou de thérapie de guérison. En fait, pour nous, le terme thérapie de conversion se réfère plutôt aux pratiques qui ont eu lieu dans les années 50, 60, 70, avec une psychiatrisation, avec des thérapies d'aversion, il y a des électrochocs, des choses extrêmement violentes. Pour nous, le terme thérapie de guérison est plus adéquat parce qu'il contient une dimension religieuse, spirituelle, qui est extrêmement importante pour ces groupes-là. En fait, si on guérit, et bien sûr, je mets toutes les guillemets qui s'appliquent quand j'utilise ce terme, si on guérit l'homosexualité, c'est parce que Dieu aide à guérir. Donc voilà, on a voulu marquer la différence entre thérapie de conversion et thérapie de guérison, qui est plutôt le phénomène actuel tel qu'il se développe en Europe et en France.
Bonjour docteur Guillaume Font.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes en duplex de Marseille. Je rappelle que vous êtes psychiatre, titulaire d'un diplôme en thérapie cognitive et comportementale, expert en neurosciences, et vous êtes l'auteur d'un livre consacré au changement. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, que vous étiez assez gêné par l'utilisation du néologisme homothérapie. Pourquoi ?
Alors en fait, ce qui m'a gêné, c'est l'utilisation du terme thérapie. Mmh. Le terme thérapie est pratiqué par un thérapeute. Absolument. Et là, on n'est pas dans la situation de thérapeute, mais de personnes qui prétendent utiliser des méthodes, donc des personnes religieuses, si j'ai bien compris. Et donc ça ne s'inscrit absolument pas dans le cadre d'un soin, ce qui est la définition du mot thérapie. Mmh.
Alors, je suis absolument d'accord avec ce que dit ce monsieur. Si on a repris ce terme, en fait, dans notre enquête, on est très souvent obligé de reprendre des termes qui malheureusement ne nous vont pas. Le bandeau du livre dit infiltré parmi ceux qui veulent guérir les homosexuels, et évidemment qu'on ne considère pas qu'on peut guérir l'homosexualité, pas du tout. Si on a repris ce terme de thérapie, c'est parce que malgré le fait qu'il n'y ait rien de médical là-dedans, que ces gens ne soient absolument pas diplômés et ne soient absolument pas compétents pour mener quelque thérapie que ce soit, c'est bien ce qu'ils prétendent faire. Il y a bien une dimension de soin dans ce qu'ils font.
Oui, et en fait, les personnes qui pratiquent ces pseudo-thérapies, parce qu'on devrait mettre le mot pseudo chaque fois, c'est pas toujours des accompagnateurs spirituels. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois des thérapeutes diplômés de relations d'aide, donc c'est une espèce de sous-diplôme de psychologie, mais on a aussi identifié des gens qui sont diplômés de médecine, voire de psychologie, des neuropsychiatres qui pratiquent ce genre de choses, des gens qui ont suivi des formations tout à fait ordinaires et reconnues.
Alors utilisons le mot pseudothérapie. Absolument. Ce matin. L'idée de ces pseudothérapies, c'est d'extirper le péché d'homosexualité grâce à des techniques occultes et dangereuses.
Alors, c'est plus compliqué que ça. Pendant mes infiltrations, je me suis rendu compte, parce que du coup, j'ai été infiltré pendant longtemps dans plusieurs groupes de guérison. Je me suis rendu compte que, alors, pour eux, les causes, entre guillemets, encore une fois, je suis obligé de parler avec des guillemets à chaque fois que je parle, mais malheureusement, c'est comme ça. Les causes de l'homosexualité sont diverses et variées. L'idée, selon ces groupes-là, les théories qu'ils prônent, c'est que personne n'est homosexuel. Ça n'existe pas. L'homosexualité, en fait. La personne est hétérosexuelle, il va y avoir une déviance, une cassure, une séparation avec ce qu'elle est vraiment, qui va l'emmener vers l'homosexualité. Alors, au début, on a des explications psychologisantes. C'est le cas de Torrent de Vie, le groupe évangélique, qui va parler d'une séparation avec le père, avec la mère, etc. Et puis, petit à petit, plus on avance dans ces infiltrations, plus on se rend compte que la cause réelle, la cause profonde qui est avancée par ces groupes-là, c'est effectivement une influence démoniaque, c'est tout ce qui a à voir avec le péché, ce sont des choses qui sont extrêmement spirituelles. J'ai assisté, pendant mes infiltrations, à des prières de renonciation au démon, par exemple, où en fait, une fois le phare pseudo-psychologique tombé, il reste à ça une explication qui est mystique, qui est spirituelle, qui est une explication démoniaque, en fait.
Jean-Louis Adenor, vous êtes devenu Guilhem, un jeune chrétien attiré par les hommes.
Absolument, absolument. Un jeune chrétien attiré par les hommes, et surtout qui en souffre, la dimension est importante. L'idée, c'est, voilà, il nous répète souvent, et ils le disent encore maintenant qu'ils se défendent, que les personnes qui passent par ces groupes sont volontaires. Et il faut absolument le rappeler, et c'est important de le dire. Dans mes infiltrations, j'ai croisé personne qui a été forcé de passer par ces groupes-là. On n'est pas dans le cliché du film américain où la personne est forcée d'aller dans ces groupes par ses parents. En revanche, ces personnes-là sont toutes en souffrance par rapport à ce qu'elles sont, et ces groupes nourrissent cette souffrance-là, en fait. Ils nourrissent cette homophobie qu'ils ressentent pour eux-mêmes, en fait.
Alors, il s'agit de groupes catholiques et évangéliques qui se gardent d'utiliser le terme de guérison et de maladie. Ces associations utilisent une sémantique beaucoup plus subtile.
Oui, c'est ce qui nous a posé une difficulté au début de l'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde leur site internet et leur discours d'affichage, on va plutôt parler de guérison des blessures profondes, de problèmes d'identité sexuelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été adapté au contexte français. Donc, par exemple, aux États-Unis, le livre qui sert de manuel de travail à Torrent de Vie en France a été édité sous le sous-titre Comment Jésus guérit l'homosexuel, et ça a été traduit en français sous le titre Vers une sexualité réconciliée. Donc on voit bien qu'en traversant l'Atlantique, ces programmes de guérison s'édulcorent complètement pour s'adapter au contexte français.
Guillaume Font, dès le 19e siècle, la psychiatrie a exploré l'homosexualité comme une maladie mentale.
Oui, la psychiatrie ne considère absolument plus aujourd'hui, il faut le souligner, l'homosexualité comme une maladie, même si c'est finalement assez récent dans l'histoire. Aujourd'hui, l'homosexualité apparaît comme un trait, au même titre que l'âge et le sexe, c'est un trait de la personnalité de la personne et absolument plus un sujet de soins.
Il faudra attendre 1990, hein, je le disais en introduction, pour que l'OMS considère l'homosexualité plus du tout comme une maladie mentale. Et en France, hein, la France ne classe plus l'homosexualité comme une pathologie psychiatrique depuis 1992.
Je vais dire quelque chose qui peut être un peu choquant, mais qui, à mon avis, il faut le rappeler, j'essaie de le dire le plus possible. Ces thérapies de guérison, entre guillemets, ne fonctionnent pas, elles ne marchent pas. Ces groupes prolifèrent depuis des années, aux États-Unis depuis des décennies, en France depuis 1995. thérapies-là ne fonctionnent pas. Elles n'ont jamais permis à qui que ce soit de changer ce qu'il est, ce qu'elles permettent. Torrent de Vie et Courage proposent des restaurations, des guérisons. En réalité, ce qu'ils proposent, c'est de se réfréner, c'est de se retenir, de vivre sa propre sexualité toute sa vie. C'est l'unique chose que ces groupes-là proposent.
Rappelez-nous qui sont Torrent de Vie et Courage.
Alors, Torrent de Vie, c'est un groupe évangélique qui est tenu par un pasteur, qui s'appelle le pasteur Werner Lurcher, qui a créé ce groupe en 1995, qui est d'inspiration américaine, qui est calqué, absolument calqué sur le modèle américain. Courage, c'est un groupe qui est né dans la foulée La Manif pour tous, en 2014, qui a été fondé par des gens qui ont participé eux-mêmes à La Manif pour tous, qui est un groupe catholique, cette fois-ci, dont la ligne est plus de demeurer dans la chasteté. Les frères de Courage se considèrent comme des martyrs de la chasteté. Au fond, et je le prouve dans mes infiltrations, au fond, l'idée est la même. L'idée, c'est de vivre au moins comme un homme chaste, au mieux comme un hétérosexuel.
Pourquoi vous êtes concentré sur des groupes chrétiens? Pourquoi avoir exploré qu'il se passe dans l'islam, dans le judaïsme?
Alors, c'était pas du tout une volonté de notre part. Nous, on a tiré les fils un peu de ce qu'on trouvait au fur et à mesure de l'enquête. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est ces réseaux qui sont constitués. Mmh. C'est quelque chose de construit avec une idéologie, des livres de référence, des penseurs, des dirigeants, etc. Et on sait, on a entendu des choses sur des rabbins ou des imams qui peuvent pratiquer des choses assez ressemblantes à ce genre de thérapie dans l'enceinte des synagogues ou des mosquées, mais pas de groupe construit qui se consacre à la guérison de l'homosexualité.
Ce que Tim dit, c'est qu'en fait, quand on a commencé à travailler sur les États-Unis et quand on a regardé ce qui se passait, on s'est rendu compte, et ça c'est important parce que c'est l'apport de notre livre en fait, on s'est rendu compte que ce système américain est importé en Europe. Ce qu'on a découvert, ce qu'on révèle dans le livre, c'est un système qui est le même qu'aux États-Unis, qui prolifère faire depuis 20 ans. Quelque chose qu'on voit très bien dans le film qui passera sur Arte donc le 26 novembre, c'est la façon dont ces groupes-là se sont importés en Europe, dont ils ont exactement les mêmes méthodes, les mêmes penseurs de référence, les mêmes livres de référence. Donc oui, on aurait pu travailler sur l'islam et sur le judaïsme, mais il se trouve qu'on a révélé un système et qu'il se trouve que ce système est chrétien. Voilà.
Est-ce que ces groupes français sont financés par les États-Unis, par ces groupes états-uniens?
Alors justement, on a appris hier, j'ai assisté à l'audition des responsables de Torrent de Vie. L'audition à l'Assemblée nationale, pardon, j'ai pas précisé, parce qu'en ce moment il y a deux députés qui sont en train de mener une mission d'information pour faire la lumière sur ces pratiques et éventuellement déboucher sur une proposition de loi pour les interdire. Et donc j'écoutais parler les responsables de Torrent de Vie pour s'expliquer sur leurs pratiques, et on a appris qu'il y avait quelques centaines d'euros qui étaient touchés par Torrent de Vie en France depuis la maison mère américaine qui s'appelle Desert Stream Living Waters.
Allez, nous attendons vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 1977. Cette année-là naissait Charline Vanhoenacker et disparaissait l'actrice Jeanne Crawford. Le temps d'une chanson, souvenez-vous de ce que vous faisiez en 1977, si vous étiez né.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's life. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif?
Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around. I get around. Get around, round, round. Vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait.
Et Saint-Malo dormait.
Et les radios chantaient.
Et les radios chantaient.
Un truc qui me colle. Banda Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient.
Et les loulous roulaient.
Et les cailloux chantaient.
Et les cailloux chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur.
Laurent Voulzy, Rock Collection.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
10h22 et on s'intéresse ce matin à ces groupes religieux qui prétendent guérir avec des guillemets, des gros guillemets, les homosexuels, avec les journalistes Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre et avec le psychiatre Guillaume Font. Alors Jean-Louis Adenor, sous le pseudonyme de Guilhem, vous assistez à une réunion du groupe religieux Courage. Qui est ce groupe? Quels sont ses objectifs? En lisant votre livre, j'ai eu l'impression d'assister à une séance des alcooliques anonymes.
Absolument. En fait, c'est calqué sur ce modèle-là. Ils s'en cachent absolument pas. C'est complètement assumé chez eux. C'est un groupe catholique qui a été créé dans la foulée de la Manif pour tous, en fait, à un moment où l'Église se demandait comment investir la question de l'homosexualité. Donc, il y a eu deux réactions. La réaction d'accepter le croyant homosexuel et l'autre réaction, qui est la réaction conservatrice réactionnaire, qui consiste à essayer de faire vivre l'homosexuel selon le dogme de l'Église. C'est ce que Courage fait. En fait, le groupe Courage, c'est un groupe d'hommes, donc c'est uniquement des hommes, qui s'encouragent les uns les autres à demeurer dans la chasteté. Le chemin pour l'homosexuel chrétien, selon Courage, c'est l'abstinence absolue. Ne pas tomber dans le péché. Ces gens se réunissent, donc à Montparnasse, ils se réunissent, ils sont 5 ou 6, autour d'une table, et le rituel est le même à chaque fois. On commence tous par « Bonjour, je m'appelle Guilhem. Bonjour, je m'appelle Ali, je m'appelle Timothée, et je suis attiré par les personnes du même sexe. » Et ensuite, les frères répondent « Bonjour Jean-Loup, bonjour Guilhem. » Et ensuite, la personne témoigne de son parcours.
Vous avez été touché par ces hommes qui luttent de toute leur force contre leur attirance.
Absolument.
Pour eux, il s'agit même d'un véritable martyr.
Oui, alors ils se considèrent effectivement comme ce qui s'appelle des martyrs de la chasteté, parce qu'en fait, c'est clairement une vie qui est sacrifiée pour vivre selon les enseignements, enfin en tout cas ce qu'ils considèrent comme étant les enseignements du Christ. Donc oui, c'est absolument marquant. En fait, maintenant avec du recul, parce que ces infiltrations-là, elles ont eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose qui... En fait, je me sens extrêmement inquiet pour eux, en fait. Il y a beaucoup de douleurs. Ce sont des situations qui sont extrêmement poignantes, extrêmement fortes. Et ce sont des gens qui s'encouragent les uns les autres, en fait, à demeurer dans cet état de frustration et de rétention, en fait, sur ce qu'ils sont. Et donc, oui, il y a une violence, quand même.
Timothée de Roglaudre.
Oui, vous parlez des alcooliques anonymes, justement, parce que là aussi, c'est un programme qui a été importé des États-Unis. Faut
oui,
le rappeler.
C'est vrai.
Et quand un prêtre crée ce groupe dans le diocèse de New York en 1980 sous le nom de Courage International, il se calque explicitement sur le modèle des alcooliques anonymes. Faut quand même préciser que les alcooliques anonymes et toutes les autres fraternités qui vont parler de drogue, etc., sont des fraternités faites pour lutter contre des addictions et que l'homosexualité est tout sauf une addiction.
Guillaume Font, docteur Guillaume Font, quelles sont les conséquences psychologiques d'une telle lutte? Quelles sont les répercussions?
Alors, ce que décrivent Jean-Louis Timothée, c'est effectivement une grande souffrance, et ce genre de groupe permet de trouver une écoute et donc des personnes qui vivent la même chose, ce qui est le principe de groupe de thérapie d'une façon générale. Donc, ça leur apporte un soulagement temporaire. Mais la question effectivement sous-jacente, c'est quelle est l'intention derrière, c'est-à-dire réfréner sa sexualité. On sait que cela engendre de nombreux troubles, quelle que soit la sexualité. C'est valable pour hétérosexuels, homosexuels. À partir du moment où on réfrène une fonction qui est physiologique, cela peut avoir des conséquences qui ensuite sont variables selon les personnes, parce que donc il y a une grande diversité chez les personnes, mais cela peut engendrer beaucoup de souffrance.
Question délicate, docteur Guillaume Font, est-ce que l'orientation sexuelle est figée une fois pour toutes, pour toujours? Peut-on changer d'orientation sexuelle contre soi-même?
Alors, c'est effectivement une question très difficile, parce que moi, il me paraît évident que les thérapies de guérison dont on parle ne fonctionnent pas. Donc, c'est important effectivement de le rappeler. Effectivement, pour un psychiatre, ça paraît évident aujourd'hui au vu des connaissances scientifiques. Donc, c'est complètement ubuesque. Par contre, on voit absolument tout dans les parcours de vie d'orientation sexuelle. C'est-à-dire que il y a des patients qui peuvent décrire avoir été à une période de leur vie homosexuelle puis hétérosexuelle, ou l'inverse. Donc dans la bisexualité, il y a des personnes qui décrivent avoir parfois des périodes hétérosexuelles et des périodes homosexuelles, et à l'inverse, il y a des personnes qui seront toujours homosexuelles ou d'autres toujours hétérosexuelles. Donc on voit vraiment tous les parcours, par contre, c'est pas quelque chose que l'on décide et que l'on maîtrise. C'est quelque chose, voilà, qui fait partie du fonctionnement de la vie, du psychisme, et qui a donc une base à la fois dans l'esprit et dans le cerveau, parce que les deux sont indissociables. Il n'y a pas que du biologique ou que du psychique, et donc on peut absolument tout voir. Par contre, on ne peut pas contrôler cela. Ça, et essayer de contrôler une fonction aussi importante, ça engendre des troubles. Au même titre, je ferai la comparaison que d'essayer de contrôler l'appétit, qui peut engendrer des troubles du comportement alimentaire. C'est la même chose. C'est des fonctions qui sont vraiment très ancrées dans notre nature, et essayer de réfréner ça ou de lutter ça engendre de la souffrance.
Jean-Louis Desnors.
Oui, moi c'est quelque chose que j'ai observé pendant mes infiltrations, notamment chez Torrent de Vie, donc le groupe évangélique. Torrent de Vie, donc une pratique très américaine, ils ont un goût du show en fait, et ils aiment beaucoup amener des gens sur le devant de la scène qu'ils considèrent comme à restaurer. Donc la restauration, c'est la guérison, c'est le retour vers l'hétérosexualité. Et donc l'été dernier, quand je m'infiltre à Chalon-sur-Saône pendant une semaine, il y a cet homme qui vient nous voir, qui nous parle de sa vie, qui nous dit: avant, j'avais une vie dissolue, une vie d'homosexuel, j'étais dans la drogue, l'alcool, le sexe, etc. Et puis un jour, j'ai rencontré le Christ, j'ai connu Torrent de Vie, depuis je suis restauré, maintenant je suis marié, j'ai une petite fille. Et il nous dit quelque chose comme: ça me fait un bien fou d'être un homme pour ma femme et ma fille. Et en fait, cet homme, je vais le voir à la sortie de son témoignage, je vais le voir et je lui dis: c'est incroyable, ton témoignage, c'est d'une force incroyable, c'est la preuve que ça marche, quoi. C'est la preuve qu'on peut changer. Et il me répond une chose qu'on a entendue systématiquement à toutes les personnes à qui on a posé la question, en infiltration ou pas, on a eu la même réponse. Il nous a répondu une chose très simple, il nous a dit: c'est un combat de tous les jours. Ce que ce monsieur vivait, c'était pas une restauration magique où d'un seul coup il est hétérosexuel. Ce qu'il vivait, c'était un combat de tous les jours contre ses attirances naturelles homosexuelles. C'est ça la vérité. Et la personne qui a créé Torrent de Vie, Comiskey, Andrew Comiskey, le pasteur américain, on l'a vu à Orléans, il dit la même chose.
Et en fait, là où on considère que c'est extrêmement dangereux, c'est que il y a une promesse qui est faite par ces groupes-là, donc soit de devenir hétérosexuel, de pouvoir se marier à une personne du sexe opposé, soit de rester abstinent à vie. Donc c'est deux horizons qui sont très difficile à atteindre, voire inatteignable. Donc nécessairement, ça va créer une frustration. Et ça, on l'a très bien vu, puisque en parallèle des infiltrations, on a recueilli des témoignages de victimes, non pas de Torrent de Vie et de Courage, mais de parcours similaires. Et les dégâts psychologiques sont omniprésents. Donc il peut y avoir des dépressions. On a le cas de Jean-Michel Dunant qui a subi 8 exorcismes en l'espace de 2 ans et qui, suite à ça, a fait 2 tentatives de suicide et failli être interné en hôpital psychiatrique. Donc la question des dégâts psychologiques est très claire.
Question de Guillaume Font.
Oui, justement, je souhaitais que vous puissiez détailler les différents types de méthodes et de thérapies qui sont employées, parce qu'on a évoqué plusieurs choses. Là, vous parliez donc d'exorcisme. Ouais. Dans le livre, vous évoquez la psychanalyse. Il y a un psychologue à un moment donné qui est aussi mis en exergue. Donc, je voudrais que vous puissiez décrire les différents types de méthodes. Et effectivement, on rappelle qu'aucune de celles-ci ne fonctionne.
Absolument aucune. Alors, je vais vous dire ce que j'ai vu, moi, de mon expérience. Alors, j'ai courage. C'est très simple, hein. C'est des groupes de parole et de la prière et de la, voilà, de la confession. C'est une pratique, j'ai envie de dire, assez classique du catholicisme. Hein. On va témoigner quelque chose, les frères vont écouter et il va y avoir de la prière. Il n'y a pas vraiment de méthode derrière, de volonté, en tout cas dans le groupe, de réorienter la personne. Chez Torrent de Vie, c'est beaucoup plus vicieux. En fait, chez Torrent de Vie, il y a un mélange entre ce qu'on a appelé dans le livre de la pseudo-psychologie et du religieux. En fait, Torrent de Vie, concrètement, va inciter les participants à parler de ses problèmes intime. En fait, ils vont essayer de chercher, selon eux, d'où vient la déviance, à quel moment est apparue la déviance. Est-ce que maman a été omniprésente, étouffante, papa a été absent, ça est arrivé vers 8 ans, quelque chose comme ça. Donc des clichés, hein, des choses extrêmement, extrêmement clichés sur la psychologie. Et derrière ça, en fait, et d'ailleurs, votre avis m'intéresse là-dessus, derrière ça, il va y avoir une réponse uniquement religieuse. Donc pour être très, très clair, quand j'étais en infiltration à Torrent de Vie, pendant une semaine, on a invité 3 fois par jour pendant les groupes à parler des choses extrêmement intimes chez nous. On va parler d'abus, on va parler de maltraitance, on va parler de viols, des choses qui sont vraiment extrêmement intimes, extrêmement douloureuses et violente. Et derrière ça, la seule réponse qui est apportée par Torrent de Vie, c'est pas une réponse psychologique, c'est une réponse religieuse. Il va y avoir une réponse spirituelle. Il va y avoir de la prière, de la position des mains, il va y avoir du parler en langue. Là, on peut avoir des cas d'exorcisme, par exemple, même s'il nie, mais je sais ce que j'ai vu pour le coup. Et donc, la réponse qui est apportée à ces problématiques psychologiques sont des réponses spirituelles. Il y a un mélange, en fait, un peu contre nature, entre cette pseudo-psychologie et une réponse qui n'est que religieuse. La guérison pour Torrent de Vie ne vient que de Dieu, hein, que de l'Esprit Saint, que de cette pratique extrêmement forte de la religion. Pour le reste, effectivement, on a eu quelques infiltrations chez des thérapeutes. Alors, en réalité, ce ne sont pas des thérapeutes, ce sont des gens qui sont diplômés de relations d'aide, qui est un peu un genre de sous-diplôme de psychologie, qui est beaucoup utilisé, d'ailleurs Timothée pourra en parler mieux que moi, mais qui est beaucoup utilisé par les groupes chrétiens pour faire du conseil, voilà, de la psychologie. Et là, pour le coup, on est vraiment, pour l'avoir fait, c'est ce que je raconte dans le livre, auprès de la FCP, pour l'avoir fait, on est vraiment dans une pratique dévoyée de la psychologie. Vraiment.
Timothée de Gros-Glaudran.
Oui, donc Jean-Loup parlait de relation d'aide, donc ça c'est une traduction française du counseling américain, donc qui à l'origine est...
Counseling, ça veut dire quoi?
Counseling, ça veut dire relation d'aide, enfin c'est comme ça que ça se traduit en français. Et en fait, à l'origine c'est une discipline très respectable, donc il y a ces instances, ces praticiens, etc. Mais ça a été, en fait, les milieux évangéliques se sont appropriés cette discipline pour faire en sorte que des personnes qui n'ont pas de diplôme de psychologie puissent aller chercher des problèmes intimes, aller chercher dans les traumatismes de l'enfance des pseudo origines à l'homosexualité.
Guillaume Font.
Alors, je trouve ça extrêmement dangereux, effectivement, à partir du moment où on commence à explorer des traumatismes de l'enfance, on peut réveiller des blessures très profondes, et ça, seul un thérapeute peut le faire. Il faut absolument assurer, entre guillemets, un service après-vente, c'est-à-dire, il faut pas laisser la personne seule. Vous avez évoqué des tentatives de suicide, effectivement, il y a un grand risque si la personne a une vulnérabilité, qu'en réévoquant ce genre d'événement qui a pu être traumatique dans certains cas, ou simplement des événements de la vie ordinaire, mais qui sous-entendraient que la personne, en fait, a été victime et que toute sa vie, entre guillemets, a été conditionnée par ces événements, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il s'est passé plein de choses avant, plein de choses après, et que la personne a aussi un pouvoir d'agir dans sa vie. Si on fait que réveiller les blessures et qu'on propose rien après sur le plan thérapeutique, c'est extrêmement dangereux. Et ça, pour moi, ça doit être vraiment encadré. Je rappelle que le titre de thérapeute est encadré depuis assez peu de temps en France. C'est il y a quelques années seulement, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'auto-déclaraient thérapeutes. Maintenant, donc, il faut avoir une certification pour être thérapeute. Il y a encore beaucoup de personnes qui exercent des formes de, on va dire, d'aide, de relations d'aide dont on parle, mais sans, enfin, qui utilisent en fait un diplôme pour pratiquer des choses qui ne sont pas validées par le diplôme, en fait. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
Allez, il est temps de retrouver la chronique Passons Genre de Julia Foyce.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Un garçon, je suis une fille.
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
Que t'es un garçon?
T'as menti?
Bah oui, mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et tu as un câble droit de vivre, voilà!
Bonjour Julia Foyce.
Mais bonjour Ali, bonjour.
Alors vous avez choisi de revenir sur l'onde de choc qui secoue le cinéma français après les déclarations de la comédienne Adèle Haenel à Mediapart. L'actrice doublement césarisée accuse le réalisateur Christophe Ruggia de harcèlement et d'attouchement quand elle était adolescente. Depuis le début de la semaine, l'affaire fait beaucoup de bruit.
Et je ne sais pas ce qui résonne si fort, ce sont les mots d'Adèle Haenel ou plutôt le silence qu'il révèle, silence opaque, épais, complice. Silence du circulé, il n'y a rien à voir, silence du qui ne dit mot, consent, elle n'a pas consenti, alors elle parle, Adèle Haenel, elle raconte, elle nomme, elle dit victime, elle dit j'ai été victime, elle raconte les baisers forcés dans le cou, la main sur le torse, les doigts sur la cuisse, elle avait entre 12 et 15 ans, elle nomme l'emprise, le harcèlement, les attouchements, les souvenirs remontent, les mots pilent juste et l'accusé sort du bois. Mais lui, Christophe Ruggia, il parle d'amour, dans son droit de réponse, comme dans les lettres qu'il lui a écrites il y a quelques années, il parle d'amour, l'amour d'un homme de 37 ans pour une gamine de 12 ans. Vous les avez, les images, les mains sur les cuisses, les baisers dans le cou, cet homme de 37 ans, cette gamine de 12 ans. La loi dit pédocriminalité, la loi interdit, la loi cadre, mais la loi dit aussi présumé innocent avant d'être déclaré coupable. Alors toutes celles qui disent « j'ai été victime » sont présumées menteuses, présumées suspectes. À l'instant même où elles prennent la parole, suspectes d'avoir intrigué, provoqué, et comment t'étais habillée et t'as vu l'heure qu'il était. Mais c'est quoi ce monde-là où quand une femme, une jeune fille, une adolescente, qu'importe, dit « il a mis ses mains sur moi, je ne voulais pas », on lui répond « tais-toi ». En nommant les faits, Adèle Haenel remet les choses à l'endroit, dans un monde qui marche sur la tête. Un monde où les victimes se sentent coupables et où les coupables sont persuadés d'être innocents. Un monde qui n'écoute pas, un monde qui n'entend pas, parce qu'elle a essayé de dire déjà, Adèle Haenel, avant ça, dire à des oreilles qui se fermaient, montrer à des yeux qui se détournaient. Marine Turquie, l'auteur de cette enquête pour Mediapart, a recueilli pendant 7 mois la parole d'une trentaine de témoins. Tous savaient. Ils étaient là, pendant le tournage et en amont, pendant les répétitions, et ils sentaient tous que quelque chose n'allait pas. Deux seulement ont tenté de protester. Ils ont été écartés du plateau. Silence radio, silence délétère, silence mortifère. C'est lui qu'on entend entre les mots d'Adèle Haenel. Le silence d'une famille qui, comme toutes les familles, a eu peur. Peur pour cet enfant, peur pour elle-même, peur de la police, peur du qu'en dira-t-on, et lui a dit « tais-toi ». Et puis il y a la grande famille du cinéma qui, dans un bel ensemble, protège les agresseurs, ostracise les agressés. Depuis MeToo, elles ont été si rares à prendre la parole pour dénoncer un système qui, sous couvert de liberté artistique, encourage l'agression, le harcèlement, le viol. Elles étaient si puissantes, celles qui, au contraire, ont volé au secours d'Harvey Weinstein, de Roman Polanski et de la liberté, cette fois, d'importuner. Ouais, décidément, c'est bien sur la tête qu'on marche. Tais-toi, et au passage, la dignité des victimes qu'on écrase. Tais-toi, je te dis, sinon, ça ira mal pour toi. Alors c'est vrai, cette fois, la société des réalisateurs a réagi très rapidement. Une procédure de radiation a été lancée contre Christophe Ruggia. Dans la foulée, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement. C'est bien. Mais c'est ce qu'on appelle un bon début, avec un risque non négligeable de classement sans suite à la fin. C'est ce qui arrive dans 73% des affaires de violence sexuelle aujourd'hui. Et Adèle Haenel l'a rappelé, au bout de la chaîne, un viol sur 100 seulement débouche sur une condamnation. Cette justice-là, elle n'y croit pas. Cette justice-là, elle n'entend pas. Elle n'écoute pas. Elle aussi, elle dit « tais-toi ». C'est pour ça qu'Adèle Haenel a préféré les médias. Un peu plus sûre d'être entendue, voire d'être crue. Elle a brisé un silence, le sien. Et elle le dit, elle peut, elle n'est plus précaire, elle n'est plus seule. Avec elle, ce sont toutes les autres victimes qu'on entend. Derrière elle, on les devine, celles qui se taisent. Quand on sait qu'une femme sur deux en France est victime d'au moins une forme de violence sexuelle au cours de sa vie, alors Ali, ce silence-là devient tonitruant.
La forte chronique de Julia Foyce à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Le programme de... Vous êtes ému et je suis ému aussi en vous écoutant. Mais le programme demain de
La Fabrique du Masculin. La Fabrique du Masculin, on se fait assez engueuler comme ça. Parce qu'on nous dit, ah, vous parlez pas des hommes. En fait, on parle tout le temps des hommes, hein, vous inquiétez pas. Mais demain, on fait La Fabrique du Masculin avec Georges Vigarello, historien spécialiste de la virilité, et Elena Milano qui a fait un très joli documentaire qui s'appelle Charbons Ardents actuellement en salle.
Le grand Georges Vigarello.
Exactement.
Qu'on adore. On continue à s'intéresser aux pseudo-thérapies qui prétendent guérir, entre guillemets, l'homosexualité, au 01 0145 24 7000. Et on écoute Philippe Catherine qui chante La Converse. Ça n'a strictement rien à voir avec notre sujet.
Ça va faire du bien.
Est-ce que c'est bien La Converse avec vous? Que c'est bien la converse avec vous. Est-ce que c'est bien de s'embrasser sur la joue? Avec vous, 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 ni l'utérus, ni le phallus, nos cunnilingus, nos lèche-cul. Je t'ai raconté mon histoire de chat qui m'a souri. Tu m'as raconté celle du vieux con qui t'a écrit. Je t'ai applaudi parce que c'est bien, la converse avec vous.
Du nouvel album de Philippe Catherine, La Converse.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h42 et on s'intéresse ce matin à ces groupes religieux qui prétendent guérir avec des guillemets les homosexuels avec les journalistes Jean-Loup Adenor, Timothée de Roglodre et avec le psychiatre Guillaume Font. Écoutons un extrait du documentaire Homothérapie, conversion forcée, diffusé le 26 novembre sur Arte, pratiques médicales extrêmes aux États-Unis pour traiter ce qui était alors considéré comme une maladie neurologique.
L'homosexualité s'est régulièrement inscrite au cours des siècles passés comme une déviance qu'il faut éradiquer. De ce côté de l'Atlantique, l'homosexualité est alors considérée par certains médecins comme une maladie neurologique. La lobotomie, un acte extrêmement violent, s'impose pourtant comme le traitement le plus pertinent pour toucher la partie du cerveau désignée comme coupable. Dans les années 70, on passe à des techniques dites aversives. L'homosexuel est soumis à l'épreuve de photos suggestives. Une érection lui vaudra une décharge électrique. Alors que les médecins abandonnent progressivement ces pratiques avec la dépsychiatrisation de l'homosexualité aux États-Unis, des mouvements religieux prennent le relais. Dès 1976, Exodus International, une nouvelle association chrétienne évangélique, affirme pouvoir guérir les homosexuels par une pratique religieuse intense. Le succès est immédiat.
Extrait d'homothérapie, conversion forcée sur Arte, ce sera diffusé le 26 novembre prochain. Beaucoup de questions nous demandent, est-ce qu'on peut parler de torture mentale ? Jean-Loup Adenor.
Alors, est-ce qu'on peut parler de torture mentale ? Le terme est très fort. Dans certains cas, je pense qu'il peut être absolument adéquat. Ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il faut bien nommer les choses pour avancer sur ce sujet. Il faut réussir à bien nommer les choses. Les gens qui passent par Torrent de Vie, Courage, des groupes de conversion, ce sont des gens qui ont bataillé pendant des années avec leur sexualité. C'est des gens qui ont bataille depuis 10, 20 ans avec ça. Et en fait, ce que fait Torrent Vie, ce que fait Courage, c'est de nourrir ça, en fait. Ils nourrissent leur propre détestation d'eux-mêmes. Alors bien sûr, eux, ils nous disent souvent, maintenant que le livre est sorti et qu'ils savent qu'on enquête sur eux, ils nous disent souvent, oui, mais les gens sont volontaires. Ils viennent librement. Ils ont le droit de venir libres. Oui, mais on est libre de choisir sa torture aussi, en fait. Et malheureusement, en fait, quand on passe des années à batailler avec son homosexualité et qu'on tombe sur un groupe qui dit, ce qu'ils disent, hein, qui dit, c'est normal que tu te sentes mal, parce que c'est anormal d'être comme ça. Il y a eu un problème quelque part. Ça, c'est nourrir la détestation de la personne pour elle-même, et c'est très très dangereux.
Timothée de Rougelodre.
Oui, alors le torture mentale, c'est vrai que c'est compliqué. Le terme torture est quand même assez cadré par des institutions internationales. En revanche, ce matin, j'assistais à l'audition de Benoît Berthe, qui est une des victimes qui témoigne dans notre livre, et il disait moi, j'ai pas été victime de violences physiques comme d'autres dans ce genre de thérapie. J'ai été victime de violences psychologiques. Mmh. Et il a dit ce mot devant deux députés, devant deux représentants de la nation, et je trouve ça très fort, parce que lui, en fait, il a été envoyé par ses parents entre ses 15 et ses 18 ans dans des sessions qui étaient censées le guérir de son homosexualité.
Écoutons Benoît.
De 15 à 18 ans, Benoît passe ses étés dans d'étranges colonies de vacances. Les animateurs sont des religieux catholiques et certaines activités sont dédiées aux homosexuels. Benoît obtempère. À l'époque, il espère encore changer.
Poussé et encouragé par mes parents, je vais donc me confesser. Comme d'habitude, il faut donc tout dire. Il faut recommencer à se mettre à nu, à parler de ses soucis difficiles, etc., de ses questionnements. Par contre, je lui dis en vérité aussi, parce que c'est la vérité, je ne regrette pas. C'est juste, c'est là. J'ai rien fait de mal pour moi. Et là, il y a eu un mur qui est tombé et un refus d'absolution, donc de passer à la suite. Et quand on n'a plus l'absolution, on n'est pas pardonné de ses péchés, on n'est plus vraiment, on fait plus partie vraiment de la communauté. C'est lourd de sens, en fait.
Alors Benoît a participé à une session de guérison intérieure au Puy-en-Velay en Haute-Loire, une session créée par un ancien pédiatre, membre de la communauté des Béatitudes. C'est quoi cette communauté, Timothée de Rougelodre ?
Alors c'est une des communautés issues de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Donc ça c'est un mouvement qui est apparu dans les années 70, qui est interne à l'Église catholique et qui est inspiré de l'évangélisme américain. Donc en fait ça va mêler une vision très conservatrice de la société, de l'homosexualité, de la place des hommes et des femmes, et une croyance très forte en la guérison miraculeuse. Donc par exemple, lui, quand il était petit, quand il avait 6-7 ans, il assistait déjà à des exorcismes, à des gens qui tremblaient par terre, qui avaient les yeux qui convulsaient, etc. Il assistait à ce qu'on appelait le repos de l'esprit. Donc c'était des gens qui tombaient d'un coup, qui étaient tirés par le prêcheur. Enfin c'est des choses assez hallucinantes, et c'est souvent dans ces milieux-là, pour ce qui est des pratiques catholiques, dans ce renouveau charismatique, que ces thérapies de guérison de l'homosexualité ont vu le jour.
Il faut le témoignage de Benoît est édifiant. Il faut juste rappeler le courage de ces gens-là. Benoît, il a un parcours de vie qui est extraordinaire. En fait, ce qui est, pour l'avoir vu chez les gens qui passent par ces groupes-là, réussir à être heureux. Après ça, réussir à vivre sa vie, à tomber amoureux, à être en couple, c'est un défi incroyable. Benoît a un parcours de vie qui est extraordinaire. Jean-Michel Dunant, je pense aussi à lui, qui maintenant est marié, qui vit avec un homme, qui dit lui-même, je crois, Tim, c'est on ne sort jamais indemne d'un parcours de la honte. Ce sont des choses qui pèsent longtemps, des années après. Ces gens-là ont un courage et une force de vie qui est vraiment exemplaire.
Docteur Guillaume Font.
Oui, je tenais à dire qu'en tant que médecin et thérapeute, je suis extrêmement choqué effectivement par le témoignage de Benoît et ce qu'il a subi. C'est vraiment destructeur pour le psychisme d'un adolescent de subir ce genre de jugement et d'exclusion. Donc c'est quelque chose qui devrait absolument cesser.
Quel impact psychologique de ce type d'accompagnement, risque de dépression, de décompensation, voire de suicide ?
Oui, clairement tous les risques liés à la santé mentale. À partir du moment où on sait que le sentiment d'appartenance à la communauté est très importante dans le bien-être psychique, avoir ce sentiment d'exclusion, d'isolement quand on est adolescent, qu'on est en train de construire sa personnalité, qu'on est en train de définir l'adulte que l'on va devenir, ça peut être vraiment extrêmement dommageable et effectivement aller jusqu'au suicide.
Oui, alors, un exemple qui est très simple, la session d'été de Torrent de Vie à Chalon, c'est une semaine où je vous disais tout à l'heure, on parle de nos problèmes, de choses extrêmement intimes, extrêmement fortes, on prie, on a cette pratique mystique, et après on rentre chez soi. À la fin, je peux vous dire que même moi, en tant que journaliste, alors que j'avais une équipe derrière moi, que j'avais Timothée qui était constamment avec moi tous les soirs au téléphone, on se parlait. Je peux vous dire qu'en rentrant après cette semaine-là, j'étais secoué comme j'ai été rarement secoué dans ma vie. Ils touchent à des choses qui sont extrêmement intimes et ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils jouent avec le feu et ensuite ils relâchent les gens. Ils les font rentrer chez eux. Ce sont des gens qui parfois sont seuls, qui sont isolés. Et quand le docteur parle d'un risque de décompensation, mais c'est évident. Oui.
Bonjour. Bonjour Jérémy Falédan.
Bonjour.
Vous êtes le co-président de SOS Homophobie. Que préconisez-vous face à ces pratiques qui prétendent modifier l'orientation ou l'identité de genre d'une personne? On l'a dit tout à l'heure, une loi est en préparation pour 2020.
Absolument, mais nous on est favorable à ce que cette loi voie le jour pour qu'on puisse cadrer juridiquement ces pratiques et les condamner et les combattre. Ça permettra aussi de faire un état des lieux beaucoup plus exhaustif. Aujourd'hui, il y a ce travail d'enquête qui a été fait et qui est absolument indispensable et nécessaire. Et pour nous aider, nous, en tant qu'association, à aider les victimes de ces pratiques, on a besoin d'un cadre juridique plus précis et plus clair.
Vous préconisez la dissolution de ces groupes?
Absolument. Enfin, je crois qu'on vient de le voir avec tous les témoignages et les éléments qui ont été apportés. Ces groupes ont des pratiques extrêmement dangereuses qui ont des conséquences dramatiques sur les personnes qu'elles prétendent accompagner. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrête ce genre de choses et que ces groupes puissent qu'on mette un terme à ces groupes.
Timothée de Roglaude.
Oui, alors la députée qui a initié cette mission d'information a évoqué beaucoup de solutions différentes. Donc d'abord, dans certaines interviews, elle a commencé par parler de dissolution. Nous, on est plutôt réticents sur l'idée.
Pourquoi?
De la dissolution, parce que déjà, c'est très compliqué sur le plan juridique. Même les sectes les plus terrifiantes ont eu beaucoup de mal à être dissoutes. Et surtout, ce serait une manière de leur donner des armes pour se victimiser, et c'est déjà un petit peu ce qu'ils font là, l'audition de Torrent de Vie, mais c'était la victimisation à outrance, on est visé par ils disaient pas le lobby LGBT, mais c'était vrai, c'était limite, quoi.
Ces groupes là ils vont continuer à se voir, hein. qu'on les dissolve ou pas, ils vont continuer à se voir. Le pasteur Lorcher, il va pas lâcher le pasteur Lorcher, c'est la personne qui a créé Torrent de Vie. Je pense aussi au groupe Courage. Ils vont continuer à se voir. Qu'ils aient une existence juridique, c'est très bien. Qu'ils aient une existence administrative, c'est très bien. Nous, pour notre travail, pour notre enquête, on a eu besoin de ça. On a eu besoin d'aller dans le journal officiel, de vérifier la création des associations. Et pour la justice, elle a besoin de ça aussi.
En revanche, on sait aussi que les deux députés ont certaines hésitations sur l'idée de faire une proposition de loi spécifique. Parce qu'il y a certaines des personnes qu'ils ont auditionnées qui leur disent il y a déjà un arsenal législatif, il y a déjà l'abus de faiblesse, il y a déjà l'exercice illégal de la médecine. Tout ça, ça veut rien dire pour une victime. Déjà, premièrement, c'est impossible pour une victime de thérapie de guérison de se reconnaître, de se dire je suis victime d'abus de faiblesse. Tant qu'on ne dit pas que c'est répréhensible de vouloir modifier l'orientation sexuelle d'une personne et que par la suite ça a un impact sur sa santé physique ou mentale, tant qu'on ne dit pas ça, la victime ne pourra pas aller porter plainte et demander réparation. Et je reviens sur l'audition de Benoît ce matin qui disait que une loi de Benoît Berthe qu'une loi... une loi c'est pas seulement fait pour que les victimes puissent porter plainte, c'est aussi un symbole, et je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y a besoin d'un symbole fort sur cette question-là.
Merci beaucoup Jérémy Falédan d'être intervenu ce matin. Alors j'aimerais qu'on termine cette émission avec le cas d'un prêtre prétendu psychanalyste, le père Tony Anatrella, soupçonné d'avoir abusé de jeunes hommes, Tony Anatrella, qui fut consulteur du Conseil pontifical pour la famille et du Conseil pontifical pour la santé, deux institutions du Vatican créées par Jean-Paul II. Tony Anatrella qui considère l'homosexualité comme une immaturité foncière de la sexualité humaine. Racontez-nous les thérapies très particulières, les pseudo-thérapies corporelles du père Tony Anatrella, Timothée de Roglaude.
Alors, Tony Anatrella, c'était quelqu'un qui était considéré pendant très longtemps comme un expert sur les questions de sexualité et particulièrement sur l'homosexualité. Donc on a découvert aussi dans notre enquête que qu'il avait créé une espèce de typologie de l'homosexualité qui était reprise encore aujourd'hui. Jean-Louis,
moi, je l'ai vu, oui.
Quelle typologie?
Alors, quand, je le raconte quand je vois un prêtre qui est l'aumônier du groupe Courage, qui me dit, il me demande si j'ai déjà été avec des filles, si j'ai déjà couché avec des filles. En gros, il veut savoir à quel point je suis homosexuel. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'il me demande. Et il me dit, quand il comprend que je lui dis que voilà, j'ai couché avec des filles, il me dit, mais c'est super, vous savez, il y a différents types d'homosexualité. Alors, il y en a pour tous les goûts, hein. La plus grave, c'est la structurelle, celle qui bouge pas. Elle est là, elle est ancrée. Ensuite, on a de l'homosexualité d'accoutumance, de circonstance, je crois. Alors là, ça va être la circonstance, c'est les marins, les militaires et les prisonniers, quoi. Mais on est sur un délire incroyable.
Mais racontez-nous les pseudo-thérapies corporelles de Tony Anatrella.
Voilà, Tony Anatrella, il avait un cabinet de psy à Nation, à Paris.
Et il n'était pas psychanalyste, hein, ni psychothérapeute. Alors voilà, psychiatre.
On sait toujours pas. Il y a eu notamment de très bonnes enquêtes de Mediapart qui n'ont pas vraiment réussi à déterminer s'il avait été diplômé. Mais Elisabeth Rudinesco, qui a un grand nom de la psychanalyse, a bien précisé qu'il avait jamais été membre d'une société de psychanalyse. Ce qui est assez aberrant, c'est que pendant des décennies, il a reçu dans son cabinet des personnes qui avaient des problèmes de sexualité ou d'identité. Donc ça pouvait être une espèce de blessure dans la masculinité. Ça, c'est très, fréquent dans ce genre de pseudothérapie. Mais ça pouvait aussi être de l'homosexualité. Et notamment, il était celui qui recevait les séminaristes homosexuels qui voulaient se débarrasser de leur homosexualité pour rentrer dans les ordres.
Alors comment ça se passait?
C'est évidemment il est présumé innocent
et d'ailleurs par la voix de son avocat Benoît Chabert, Tony Anatrella nie les accusations contre lui, oui. Notamment il le dit dans le Secret d'Info du 27 octobre 2018.
Oui, tout à fait. Et alors, ce que racontent en tout cas les victimes, donc nous on en a entendu trois, enfin les présumées victimes, c'est que Tony Anatrella aurait profité de ces thérapies-là pour proposer ce qu'il appelle des thérapies corporelles, en présentant ça comme quelque chose qui venait des États-Unis, comme une espèce de nouvelle thérapie qui venait des États-Unis. Et donc ces personnes racontent que pour les guérir de leur homosexualité, de leur problème d'identité, ils pratiquaient des attouchements sexuels sur leur personne dans son cabinet.
Là, on est vraiment dans cette espèce d'hypocrisie absolue, quoi, où ces gens-là sont concernés au premier titre, sont homophobes à un stade rarement atteint au premier titre, ils se détestent même de ressentir ça, et infligent ces choses-là à des gens qui se cherchent, à des gens à qui on pourrait dire des choses tout à fait normales, à savoir ça va aller, accepte-toi, aime-toi, et ça ira mieux.
Il y a eu des plaintes pénales?
Alors,
il y a eu des plaintes qui n'ont pas débouché sur une condamnation. En revanche, il y a eu une condamnation du diocèse de Paris l'année dernière, donc qui a interdit à Tony Anatrella de continuer, par exemple, à prendre la parole en public ou à exercer ses activités thérapeutiques. Donc c'était quelque chose de très fort pour les victimes. Maintenant, il y a aussi, enfin, c'est compliqué. Parce que c'est des faits qui remontent à longtemps, donc sur le plan juridique, c'est aussi compliqué. Il y a eu beaucoup de classements pour prescription. Voilà.
Au terme de votre enquête, qu'avez-vous envie de dire aux homosexuels croyants qui vivent mal leur homosexualité, qui aimeraient changer d'orientation par le biais de ces groupes religieux?
Moi, je vais leur dire une chose qui est très simple. Ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais. Vous allez vous torturer. Moi, je repense beaucoup, surtout en ce moment, aux gens que j'ai croisés pendant mes infiltrations. Je suis très inquiet pour eux. S'ils m'écoutent aujourd'hui, si des gens de ces groupes-là m'écoutent, écoute, vraiment, je suis inquiet pour vous, vraiment.
Un mot de conclusion, docteur Guillaume Font.
On a entendu des choses qui sont vraiment bouleversantes, édifiantes. C'est pour ça qu'on a une réglementation maintenant sur le titre de thérapeute. Donc il faut vraiment que les personnes soient vigilantes quand elles sont face à quelqu'un qui commence à prétendre exercer une guérison, un soin, quelque chose sans diplôme validé et avec des choses qui sortent de l'ordinaire. Là, on a vraiment entendu des choses qui semblent vraiment ubuesques en 2019 en France. Il faut vraiment s'extirper de là très vite, car on est vraiment dans quelque chose de très dangereux, je suis d'accord.
Merci docteur Guillaume Font en duplex de Marseille. Merci Jean-Louis Adenor, merci Timothée de Roglodre. Dieu est amour, infiltré parmi ceux qui veulent guérir entre guillemets les homosexuels, c'est publié chez Flammarion. Demain on s'intéresse aux vices et aux vertus du chocolat. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à déclarer votre amour pour cette gourmandise. Si vous n'aimez pas ça, appelez-nous également au 01 45 24 7000. Confessez-vous, exactement, Julia Foyce. À la technique ce matin, Elisabeth Collet et Tristan Gratalon.